Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Au menu de votre déjeuner, une demi-heure d'info pure avant de retrouver les auditeurs ont la parole au 32-10. Et en ce mercredi 29 août, le jour d'après au gouvernement, il manque quelqu'un sur la photo de famille. Édouard Philippe est seul en déplacement dans les Hautes-Alpes sur le thème de l'eau sans Nicolas Hulot. Et l'exécutif continue de faire bonne figure. Alors quel était le rôle exact des lobbies? Nicolas Hulot a-t-il été naïf? L'invité d'RTL Midi sera le sénateur de la majorité François Patria qui connaît bien les chasseurs. Opération de police en ce moment dans les locaux d'Actes Sud à Paris. Les policiers mesurent le bâtiment pour vérifier si la surface a bien été augmentée de 150 mètres carrés. Sans autorisation. Les Peugeot 308 au point mort à Sochaux, production à l'arrêt, faute de boîte de vitesse. Nous serons sur place dans un instant. Dans RTL Midi, la gabelle version 21e siècle. Une commission parlementaire voudrait introduire une taxe sur le sel, comme il en existe une déjà sur les sodas, afin de contraindre les distributeurs à changer la fabrication de leurs produits. Nous verrons si ça peut être efficace. La piste aux étoiles pour Rosa Buglione. Les obsèques de cette figure du monde du cirque sont célébrées en ce moment à Paris, au Cirque d'hiver. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Franchement, ça sent l'automne.
Oui, c'est une petite journée d'automne, mais ça va durer qu'une journée. Après, ça sera beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des passages nuageux très nombreux dans la plupart des régions. Et sous ces passages nuageux, parfois quelques averses et même des orages qui devraient reprendre de plus belle cet après-midi. Alors, plutôt dans les régions de l'Est, après avoir circulé dans l'Ouest, on a vu beaucoup de dégâts dans les régions du Sud-Ouest, et bien c'est l'Est qui va être concerné par ce risque orageux tout au long de l'après-midi, avec là aussi un risque de grêle, voire de fortes rafales de vent. Le littoral méditerranéen sera épargné par cette dégradation avec un ciel qui restera plus dégagé. Quelques éclaircies reviendront par l'ouest en cours d'après-midi. Tout cela avec des températures en très nette baisse, 17 à 20 degrés seulement dans le nord et le nord-ouest encore en Ile-de-France, 26 à 28 degrés dans le sud-ouest, 28 à 29 degrés dans les régions du nord-est avant les orages et 29 à 31 degrés près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il taxer les aliments les plus salés? Vous dites oui à 38%, 55% de non. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour.
Vous allez mettre les auditeurs au régime sans sel?
Exactement, ils pourront s'exprimer sur ce sujet, mais également sur les 80 km/h. Est-ce que vous respectez les 80 km/h sur les routes secondaires depuis le 1er juillet? Vous savez également aujourd'hui que Michael Jackson aurait eu 60 ans. Eh bien, quelles sont les chansons de Michael Jackson que vous préférez, que vous écoutez toujours? C'est une des questions également qu'on posera aux auditeurs entre 13h et 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Édouard Philippe au fil de l'eau après le départ de Nicolas Hulot. Le Premier ministre est ce matin dans les Hautes-Alpes pour évoquer les conclusions des Assises de l'eau, un rendez-vous qu'il devait honorer avec le désormais ex-ministre de la Transition écologique. Il y a donc un grand absent sur la photo, Dominique Tenza. L'image est un peu écornée.
Oui, c'est vrai qu'il manque quelqu'un sur la photo et politiquement, symboliquement, c'est embêtant. L'entourage du Premier ministre le reconnaît d'ailleurs volontiers. Même si on précise à Matignon que la présence de Nicolas Hulot ici aujourd'hui dans les Hautes-Alpes était dans les faits plus symbolique qu'autre chose. Certes, il incarnait jusqu'à hier matin l'écologie dans ce gouvernement, mais ce n'est pas lui qui avait directement supervisé ce dossier de l'eau, un dossier relativement technique. Il s'agit d'aider les communes à rénover leur réseau de distribution, dont certains ont des taux de fuite gigantesques. Et ce dossier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'était celui du secrétaire d'État Sébastien Lecornu qui est là, lui, depuis ce matin avec Édouard Philippe. Manière de montrer que les vrais enjeux restent assurés, qu'il faudra plus que la démission du ministre pour perturber le fonctionnement de l'État. On ne va quand même pas se couvrir la tête de cendre et arrêter de vivre, explique en privé un conseiller, d'autant que le bilan, une fois encore, n'est pas mauvais, insiste Matignon. Hulot voyait toujours le verre à moitié vide. Nous voulons montrer qu'il est aussi à moitié plein.
Dominique Tenza pour RTL. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, vous le disiez, fait partie de ceux qui peuvent briguer le poste de Nicolas Hulot, tout comme l'ancien ministre du Développement sous François Hollande, Pascal Canfin. L'annonce du remaniement ne se fera pas au mieux avant le retour d'Emmanuel Macron de Finlande demain soir. Alors, ironie du sort, au lendemain de la démission de Nicolas Hulot, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est en visite ce matin dans l'Allier sur le thème du bien-être animal et celui qui est considéré comme le meilleur ennemi de l'ex-ministre au gouvernement lui a rendu hommage.
C'est une décision personnelle et je la regrette. Nous avons beaucoup travaillé avec Nicolas Hulot et nous avons eu de belles avancées ensemble. J'ai toujours dit que j'étais solidaire pour deux dans ce gouvernement. Nos objectifs étaient communs, nos valeurs étaient parfois communes sur certains sujets. Nous avions ces mêmes objectifs partagés. Les moyens peut-être pour y parvenir n'étaient pas forcément les mêmes. Alors on a voulu y voir des guerres, des oppositions. Moi je ne me situe pas dans ce débat-là et je ne commande pas ça. Moi je suis aujourd'hui au travail. Notre objectif et l'objectif du gouvernement en matière d'agriculture mais aussi en matière de politique environnementale n'a pas varié d'un iota.
Stéphane Travers au micro RTL de Christian Panvert. Ce matin, Ségolène Royal, l'ancienne ministre de l'Environnement, a évoqué au micro d'Elisabeth Martichoux qu'il fallait un sursaut, une prise de conscience pour que la France ne perdent pas le leadership climatique. Pour revenir sur cette démission et notamment sur le rôle des lobbies qu'a dénoncé Nicolas Hulot, nous sommes en ligne avec le sénateur de la majorité, François Patria. Bonjour.
Bonjour.
Président du groupe La République En Marche au Sénat et proche des chasseurs. Oui. Vous avez assisté à cette fameuse réunion lundi soir à l'Élysée qui a tout fait basculer. Pour vous, cette démission, c'est une désertion ?
Non, d'abord, mon rôle à moi, c'est pas d'être lobbyiste ou quoi que ce soit. C'est depuis 20 ans, depuis que j'avais été chargé par Dominique Voynet, Lionel Jospin, jouer un rôle de médiation avec la chasse. J'ai poursuivi cette médiation et le dialogue entre les responsables politiques qui voulaient bien faire appel à moi pour faire le dialogue avec les chasseurs, c'est mon rôle. Et c'est la raison pour laquelle j'étais à la réunion lundi après-midi. Moi, je pense que, non, je parlerai pas de désertion, mais je peux pas croire non plus que ce soit cette réunion qui soit l'élément qui ait déterminé la décision de Nicolas Hulot, que je regrette aussi. Parce que je pense que dans cette réunion, c'est une réunion gagnant-gagnante. Une réunion gagnant-gagnante où les environnementalistes obtenaient, avec l'Agence de la biodiversité et l'ONCFS, avec la gestion adaptative des espèces, des points très importants sur lesquels ils avaient lutté depuis de nombreuses années.
Et où les lobbyistes avaient leur place.
D'abord, Thierry Coste, il est conseiller politique du président de la Fédération des chasseurs. C'est à titre là qu'il était là. Et je dois dire que pendant la réunion, il n'a pas pris la parole. Donc, moi, ça me paraît aujourd'hui, j'ai à défendre personne ici. J'ai à dire que cette réunion était une réunion tripartite, qui s'est tenue dans de bonnes conditions, qui avait abouti à un accord sur trois points essentiels, sur lesquels il m'avait semblé que le ministre lui-même avait donné son accord quant à la désignation des responsables pour mener à bien les chantiers qui avaient été décidés. Dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu de dramatiser la réunion qui a été une réunion qui s'est déroulée dans la plus parfaite coordination.
Donc vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas compris, finalement.
Je pense que c'est pour d'autres raisons, d'ailleurs, que lui-même, Nicolas Hulot, a évoqué lors de son intervention le lendemain matin. Il a dit qu'il n'était pas pour la politique des petits pas, qu'il était beaucoup plus ambitieux, ce que je comprends, parce que tout le monde partage aujourd'hui, qu'il avait déjà fait des concessions, qu'il y avait des points qu'il a évoqués, 5 points qui n'étaient pas ceux de la chasse, sur lesquels il avait considéré que la politique n'avançait pas assez sur la gestion climatique. Moi, je pense que Emmanuel Macron a soutenu en permanence son ministre, qui lui a fait gagner tous les grands arbitrages, que c'était sur Notre-Dame-des-Landes, sur les gaz de schiste, sur les hydrocarbures, sur la biodiversité, sur le plan climat, et que on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il était seul. Je crois qu'il a été soutenu par le chef de l'État en permanence.
Contrairement à ce qu'il dit, le gouvernement fait bonne figure depuis hier, on l'entendait il y a quelques instants, en rendant hommage à l'action de Nicolas Hulot, mais il a quand même provoqué une crise majeure, une crise politique majeure en pleine rentrée.
Moi, je pense que ça a toujours été difficile pour les ministres de l'Environnement et de l'Écologie. Vous savez, je suis bourguignon, je suis actuellement à Dijon, et le premier ministre de l'Économie a été Robert Poujade. Il avait dit à l'époque, c'est le ministère de l'impossible.
C'était dans les années 70. Oui, mais alors, vous sous-entendez qu'au fond, il n'avait pas l'étoffe, Nicolas Hulot ?
Non, moi, je pense que quand on veut défendre les causes, il ne faut pas... aux différentes contrariétés céder le pas et se décourager. Quand on a une mission, il sentait un vécu de mission, il avait, je crois, les moyens de pouvoir l'assumer aujourd'hui, le ministre. Il pouvait, dans la durée, montrer au bout d'un temps, c'est pas au bout d'un an, de la transformation écologique qu'on peut juger de l'action qu'on a menée. Nicolas Hulot a été soutenu par le Premier ministre, il a été soutenu par le président de la République, ils leur ont toujours fait confiance et... Je pense qu'il y avait, il y a l'écologie sociétale et puis il y a l'écologie politique. Ouais, l'écologie politique, elle a ses temps, elle a ses codes. L'écologie sociétale, elle a ses ambitions, elle a son enthousiasme. C'est plus difficile.
Merci François Patria d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Bonne journée. Cap sur les réformes sociales. Un an après les ordonnances réformant le droit du travail, syndicats et patronats défilent à partir de cet après-midi dans le bureau d'Édouard Philippe pour évoquer les futurs contours de l'assurance chômage. Philippe Martinez de la CGT ouvrira le bal tout à l'heure. Emmanuel Macron, toujours à l'étranger sur le thème de la défense de l'Europe, a répondu sèchement ce matin à l'Italien Salvini et au Premier ministre hongrois Orban qu'ils avaient raison de le voir comme leur opposant principal. Les deux hommes se rapprochent ostensiblement sur leur nationalisme et estiment que le chef de l'État français est le leader du camp favorable à l'immigration. Dans un instant, une opération de police aux éditions Actes Sud.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Quand la police se retrouve à faire un travail d'agent immobilier, c'est assez rare et ça concerne la maison d'édition Naguère dirigée par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Depuis 2 heures, Sinamir, les policiers sont dans les locaux d'Actes Sud, rue Séguier à Paris pour vérifier la taille réelle du bâtiment.
Oui, alors pour ça, les 4 enquêteurs de la police judiciaire et l'expert mandaté pour l'occasion ont investi appareils photo, ordinateur sous le bras et mettre en main la petite cour de cet hôtel particulier qu'occupe la maison d'édition depuis plus de 20 ans, notamment les fameuses mezzanines en dur que l'on aperçoit à travers les grandes fenêtres du rez-de-chaussée. Elles auraient permis à l'époque à la ministre de la Culture en poste d'agrandir la surface de ses bureaux de 150 mètres carrés supplémentaires, le tout sans le déclarer, c'est bien le problème. Pas d'autorisation de travaux en mairie, pas d'avis des bâtiments.
Petit problème de liaison avec Sinamir qui est donc devant la maison d'édition d'Actes Sud où il y a une opération de police qui vérifie le métrage du bâtiment. Est-ce qu'on peut retrouver Sina ? Non, voilà. Merci quand même Sinamir. Des chaînes de montage au point mort à cause d'une boîte de vitesse. L'usine PSA de Sochaux qui fabrique la Peugeot 308 est à l'arrêt car un autre site du constructeur à Valenciennes ne fournit pas assez de boîtes 6 vitesses. Le groupe avait sous-estimé le succès des SUV. C'est un coup dur pour les salariés. Dimitri Ramelot vient de rencontrer à Sochaux le représentant syndical CFDT Guy Miseret.
En fait, on est victime du grand succès des ventes de 3008 qui fait que c'est un impact important sur Valenciennes. Ils n'arrivent pas à produire, ils sont attaqués, ils travaillent 7 jours sur 7, mais ce n'est pas encore suffisant. Ici, on a dû faire des choix, donc ils ont choisi que le système 1, ceux qui fabriquent la 308, chômeraient mardi toute la journée et ce matin pour pouvoir faire des 3008. Les salariés, comme ils ont chômé pas mal cette année, ils vont avoir une perte de salaire. Ils vont toucher que 75% du mensuel brut. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a les primes qui seront aussi impactées, primes de tournée, primes de panier, etc. Et quand on a un petit salaire, parce que les salariés de production, c'est pas des gros salaires, c'est à peine plus que le SMIG pour la plupart. Donc oui, ça va être important pour eux. Ça va se renouveler parce qu'ils n'ont pas de solution stable pour les boîtes de vitesse. Bah, tous les mois, à mon avis, ça va se reproduire jusqu'à la fin de l'année.
Guy Miseret avec Dimitri Ramelot. Restons sur la vitesse justement, mais côté limitation cette fois. Depuis ce matin sur RTL, nous faisons un point sur les 80 km/h mis en place depuis presque 2 mois maintenant. En juillet, le nombre de morts avait baissé de 5,5% sur les routes, ce qui représentait à peu près 19 vies épargnées par rapport à l'an dernier. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Est-ce que cette limitation si décriée est finalement en train d'entrer dans les mœurs ?
Bien oui, car à moins d'être un martien, de vivre sur notre planète, tous les automobilistes ont entendu parler au moins une fois du sujet depuis janvier, date à laquelle la décision a été annoncée. Et finalement, ça a eu un effet bénéfique, selon Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
Depuis janvier, on a beaucoup parlé du 80 km/h dans les médias. Et déjà, on a vu des effets de cette mesure, puisque sur le premier semestre 2018, il y a une centaine de tués en moins. Donc ça signifie que le fait de parler a un impact sur la mortalité.
Alors c'est vrai aussi que les radars ont déjà flashé 2 fois plus sur ces routes à 80, soit plus de 250 000 excès de vitesse en plus, car il est très long de changer ses habitudes de conduite. Et puis, il faut être particulièrement prudent sur les premiers chiffres communiqués et vraiment voir sur le long terme, toujours selon Anne Lavaux.
Eh bien, il faut compter à peu près une génération pour que ce ne soit plus du tout un sujet. Et aujourd'hui, par exemple, concernant la vitesse, on circule en ville à 30 km/h ou 50 km/h. C'était 60 km/h dans les années 90, mais aujourd'hui, ça n'est absolument plus un sujet.
Bon alors, en revanche, les radars, eux, sont beaucoup plus vandalisés.
Oui, déjà plus de 400 machines dégradées. C'est 4 fois plus que d'habitude. Et cela peut coûter cher, hein. C'est jusqu'à 80 000 euros pour remplacer une cabine. Aussi, le gouvernement envisage d'implanter les nouveaux radars en hauteur, avec un double effet. Éviter d'abord les dégradations, bien sûr, mais aussi mieux contrôler de loin, grâce à une caméra, les conducteurs qui téléphonent ou qui ne portent pas leur ceinture.
Voilà, les 80 km/h, les radars, c'est un sujet sur lequel Pascal Praud reviendra avec vous au 32-10 après 13h. Le maire de Vitry-sur-Seine en garde à vue, Jean-Claude Kennedy, a été arrêté hier après avoir grillé un feu rouge et percuté un scooter avec sa voiture alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Le conducteur du deux roues a été blessé à la hanche. On fait une petite pause. Bon appétit si vous êtes à table, mais préparez-vous à manger sans sel.
RTL Midi. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr.
Cette semaine, un télérama spécial rentrée scolaire. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction.
À l'école, on enseigne à lire, à écrire, mais pas à parler en public. Comment se débarrasser de cette phobie qui paralyse tant d'élèves? La maîtrise de l'oral pourrait métamorphoser notre relation à l'autre. Des réformes sont à l'étude. Télérama enquête.
Télérama, en vente chez votre marchand de journaux.
Monoprix. Tu sais que tu reviens de vacances quand tu ouvres le frigo et qu'il est tellement vide que quand tu parles dedans, ça fait de l'écho. Et tu sais que tu reviens vraiment de vacances quand tu pars faire tes courses chez Monoprix avec tes très grosses valises, parce que vu les prix cassés, va te falloir au moins ça.
C'est la rentrée chez Monoprix avec 100 produits essentiels à prix cassé. La pizza Dolce Sodebo Prosciutto 400 grammes est à seulement 1,79€.
Monoprix, jusqu'au 10 septembre, conditions en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
RTL Midi, avec Christelle Rebière.
Vous venez de l'entendre justement, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Vous connaissez la formule qui figure sur nombre d'emballages alimentaires. Et après s'être attaqué au sucre, le gouvernement pourrait s'intéresser au sel. Un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle devrait proposer à la fin du mois au gouvernement d'instaurer une taxe sur le sel, comme il en existe déjà une sur les sodas, car les Français consomment deux fois plus de sel que la quantité recommandée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Odile Pouget, à quoi ressemblerait cette taxe?
Eh bien, elle pourrait être justement calquée sur cette fameuse taxe soda en vigueur depuis 2013 et remaniée en juillet, c'est-à-dire qu'elle serait calculée, non pas à partir d'un seuil, mais de la proportion de sel dans les plats préparés, les surgelés, les conserves, les soupes, les quiches, enfin tous les produits industriels. L'objectif, bien sûr, c'est de pousser les géants de l'agroalimentaire à faire encore plus d'efforts. Trop de sel, en effet, c'est mauvais pour la santé. On le sait, hypertension, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Certes, les industriels ont déjà fait des progrès à coups de chartes et d'engagements. Il y a 3 ans, par exemple, le secteur de la charcuterie a signé un accord pour réduire la teneur en sel de 5% dans ses produits. En 10 ans, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, a constaté une baisse de 19% dans les plats préparés, 23% dans les pizzas. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut contraindre les fabricants à déshabituer leurs clients de manger trop salé, dit le rapport d'enquête parlementaire. Mais attention, il y a aussi le sel que l'on rajoute à table, souvent sans même goûter au plat. Et là, on ne parle plus de taxes, mais de tout un comportement à changer.
Merci Odile Pouget. On va en parler justement avec notre invité, le docteur Arnaud Cocolle, qui est médecin nutritionniste. Bonjour.
Bonjour Christelle.
Comme vient de le dire Odile Pouget, est-ce que le principal problème au fond, c'est pas juste le sel que l'on rajoute nous-mêmes dans notre assiette?
Non, pas du tout, parce que le sel qu'on rajoute nous-mêmes dans notre assiette compte pour à peu près 1/5 de nos apports quotidiens en sel.
Oui.
Donc c'est bien le sel caché dans les plats préparés, dans toute l'alimentation manufacturée, les produits ultra transformés qui posent problème dans notre pays, comme dans le monde d'ailleurs. Il faut rappeler ce que vous disiez dans le reportage, il y a 14 millions de Français qui sont hypertendus et l'une des premières causes, c'est quand même la jonction de sel en excès, parce qu'on mange trop salé, ça c'est vrai.
Mais est-ce que la meilleure façon de s'y attaquer, c'est via une taxe?
Alors, tout le problème est là, parce que est-ce que les gens ne vont pas forcément remarquer qu'il y a une taxe, parce que la taxe ne va pas être de l'ordre de 1 euro, ça va être minime, ça va être quelques
centimes. La taxe soda, c'est 2 centimes sur une canette.
Voilà.
Autrement dit, c'est 1 dollar. Voilà.
Oui, complètement. Les gens, ils vont pas noter qu'on taxe parce que le produit est moins vertueux. Donc, les gens vont pas modifier leur comportement. Donc, il faut absolument que l'agroalimentaire cesse un petit peu ce jeu d'hypocrisie, parce que le premier programme national nutrition santé, qui date de 2001, donnait pour objectif de baisser la teneur en sel dans nos plats de 25% sur 5 ans. Ça n'a jamais abouti. Donc l'agroalimentaire ne va pas suffisamment vite dans ce principe de baisser la teneur en sel, qui, je le rappelle, est quand même le premier tueur en France. Donc,
oui,
le
mais
sel,
eux, ils y sont attachés pour une raison évidente, c'est le goût.
Oui, Bien sûr, c'est un exhausteur de goût. C'est également, ça permet d'allonger la durée limite de consommation des aliments. Donc, il faut peut-être aller vers des circuits plus courts. C'est-à-dire que les gens s'habituent à avoir des dates limites de consommation qui soient moins longues, que les gens aillent plutôt vers les produits moins transformés, donc que les gens raisonnent un petit peu plus sur leur alimentation, c'est-à-dire qu'ils aillent plus vers les fruits et les légumes. Il faut leur expliquer qu'en mangeant des fruits et des légumes, bah, vous apportez du potassium, et naturellement, ça va contrer l'effet d'excès de sel de votre alimentation.
Bien sûr, mais pour
donc,
ceux qui
faut faire de la pédagogie.
Ceux qui vont continuer à acheter des plats préparés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ?
Ben, en manger un petit peu moins, puis aller vers des marques. Alors il faut regarder, c'est vrai qu'on ne va pas être avec un décrypteur d'étiquette nutritionnelle quand on fait ses courses, mais plus vous avez des listes longues d'ingrédients, plus c'est suspect, et il faut regarder si le sel est dans les premiers ingrédients qui est marqué. Donc si vous avez le choix entre deux produits où le sel est un peu plus loin dans la liste que l'autre, vous choisissez celui dont le sel est un petit peu moins en teneur.
Voilà,
mais
soyons...
sachez qu'il faudrait viser 5 à 6 grammes à peu près par jour en France. Et là, on est vraiment plutôt à 8 grammes pour les hommes et à peu près à 7 grammes pour les femmes. C'est excessif et ça tue. Donc, il faut absolument changer notre comportement.
Voilà, et soyons vigilants, commençons à regarder sérieusement les étiquettes des plats préparés que l'on achète. Merci beaucoup, docteur Cocolle, d'avoir été l'invité.
Merci à vous.
Midi. Bonne journée et bon appétit. Un dernier tour de piste pour Madame Rosa. La matriarche de la famille Bouglione s'est éteinte ce week-end. À l'âge de 107 ans, elle était née dans une roulotte en Belgique. Aujourd'hui, 5 générations plus tard, la famille du cirque lui rend hommage en ce moment, dans son fief, au Cirque d'hiver à Paris, pour une cérémonie Anne Le Hénaff, non pas festive, mais religieuse.
Oui, la piste aux étoiles est ce matin un champ de fleurs et de bouquets. Le cercueil de Rosa Bouglione est au centre, couvert de roses rouges. Rouge comme les fauteuils, les escaliers, les rideaux de ce cirque d'hiver qu'elle a acheté en 1934. Et toute la famille du cirque est venue lui rendre hommage. Diane Moreno, des Cirques Moreno.
Ah oui, je l'aime. Je l'aime parce qu'elle part, mais avec elle part un monde qui disparaît. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a les cirques qui ne peuvent pas monter dans les villes, mais on vit d'un monde de fous aujourd'hui. C'est tout un passé qui s'en va.
Thierry Bouglione, le neveu de Rosa.
C'était la grand-mère de tous les artistes. Et tout le monde, quand il venait au cercle d'hiver, venait la saluer, venait parler avec elle. C'était une grande dame de la piste. Bien sûr que c'est triste. Bien sûr qu'on va la regretter. Bien sûr qu'elle nous manque déjà. C'est incroyable la vie qu'elle a eue. La première fois qu'il y a eu le trapèze volant au monde, c'est sur cette piste-là que ça a été fait. Et bien sûr qu'elle était là.
Et un grand portrait de Rosa en noir et blanc veille maintenant sur cette piste. On croise parfois de jolies femmes dans la vie, rarement de grandes dames comme elle, a dit l'un des prêtres.
Anne Le Hénaff au cirque d'hiver pour RTL. Le nom est officiel depuis hier. Thierry Henry n'ira pas à Bordeaux et le président des Girondins, Stéphane Martin, s'est confié à Denis Grandjoux ce matin. Après une semaine de pourparlers, l'ancien champion du monde n'a pas eu suffisamment confiance en l'avenir du club.
C'est quelqu'un qui est très, très méthodique, très réfléchi, qui est un passionné de foot, qui a vraiment envie de coacher à long terme, pas juste par caprice. C'est quelqu'un qui a vraiment ça en lui. Et donc, pour sa première expérience de coach, il voulait être certain que tous les éléments étaient réunis. Et donc, il a pris une décision, après avoir hésité, mais il a pris la décision de ne pas commencer avec nous. Les grands joueurs comme lui ont envie de faire de grandes carrières d'entraîneur, donc ils réfléchissent à deux fois, il a réfléchi longtemps, et il a pris une décision... Il a pris la décision de ne pas venir, mais ce n'est pas non plus signe que rien ne fonctionne.
Stéphane Martin, le président des Girondins de Bordeaux, au micro RTL de Denis Grandjoux. L'histoire du jour, pour finir, avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez à Boves, dans la Somme, où un couple s'est engraissé sur le dos de la cantine scolaire.
Eh oui, la dame de la cantine n'était donc pas la bonne fée qu'on imaginait dans cette petite ville de 3000 habitants, où cette comptable de 44 ans gérait scrupuleusement le restaurant scolaire, avec, semble-t-il, une attention toute particulière pour l'échec des parents d'élèves, avec quelques doutes et une enquête ouverte par Tracfin, l'organisme qui traque la délinquance financière, il est apparu que Madame Cantine avait détourné à son nom de 2013 à 2017 pas moins de 612 chèques, 62 000 euros de préjudice. Chèques rangés dans une boîte de chocolat et débités au compte-gouttes avec lesquels la comptable et son mari s'offraient du bon temps et de menus plaisirs. Deux voitures Mercedes acquises avec l'argent des repas, ça fait pas mal de steak haché purée, mais aussi plusieurs milliers d'euros euros dépensés pour du matériel de pêche à la ligne, la passion de monsieur, escroquerie totalement indigeste, 1 an de prison avec sursis pour la cantinière dévoyée, 6 mois sursis pour son mari profiteur. La justice est un plat qui se mange froid.
Récit signé Jean-Alphonse Richard. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques minutes. Pascal, vous avez écouté attentivement le journal. Qu'est-ce qui vous a frappé ?
Je vous ai écouté et j'ai appris quelque chose. Une opération de police est en cours ce mercredi dans les locaux parisiens de la maison d'édition Actes Sud, qui était la maison d'édition de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Est-ce qu'elle doit démissionner, selon vous, s'il est avéré qu'elle a augmenté d'une manière illicite la surface des éditions Actes Sud avec des mezzanines? Alors c'est assez complexe, hein. Elle ne sera pas forcément mise en examen d'ailleurs. Elle peut être sanctionnée sans mise en examen. C'est Thomas Proutot qui m'a expliqué ça assez précisément. Les 80 km/h font réagir déjà, bien évidemment. Est-ce que vous respectez la limitation de vitesse des 80 km/h? Et puis on parlera également de Michael Jackson. On l'a dit, il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Quelles sont vos chansons préférées de Michael Jackson? Et vous?
Hi-ha. Toutes, moi j'adore Michael Jackson.
13h05, 14h, on terminera avec les chansons de Michael Jackson.
La météo, l'épisode orageux d'hier qui a notamment balayé le sud-ouest n'a pas fait de gros dégâts dans les vignes du Bordelais, c'est déjà ça, malgré des pointes de vent à 115 km/h et des trombes d'eau. Louis Baudin, maintenant, ces orages se décalent vers l'est du pays.
Oui, exactement. En tout cas, c'est là où on va les surveiller. C'est vrai que dans la moitié est cet après-midi, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Un peu autour du Massif central, un peu également du côté de la Franche-Comté, mais globalement, c'est vrai qu'en fin d'après-midi, ce risque orageux sera beaucoup plus marqué dans la moitié est cette fois-ci. On n'aura plus dans l'ouest, hein, petit à petit. On va même retrouver quelques belles éclaircies près de l'Atlantique, sur le littoral de la Manche. Et puis entre ces deux zones, la zone orageuse et la zone où ça va s'améliorer, on conservera un ciel nuageux avec quelques pluies. Donc ça concerne toutes les régions allant de la région Midi-Pyrénées, Massif central, Centre, Île-de-France ou encore Nord-Pas-de-Calais. Là, l'amélioration va être très lente cet après-midi. Beaucoup de soleil sur le littoral méditerranéen, notamment sur la Corse. Puis côté température, ça baisse partout, notamment dans le nord et le nord-ouest, avec 17 à 20 degrés grand maximum. On sera entre 20 et 26 degrés dans le sud-ouest. Et puis dans l'est, avant l'arrivée des orages, sera encore le temps de chauffer. 26 à 29 degrés dans le nord-est et un peu plus de 30 degrés près de la Méditerranée.
Et demain, ça s'arrange ?
Et demain, ça s'arrange. Hein. Ah. C'est vraiment la pire journée de la semaine. Alors ça s'arrange. Ça veut pas dire que d'un seul coup, on va avoir du soleil partout. Ah non, il y aura encore des passages nuageux. Quelques averses, notamment dans la région de l'est. Du soleil, mais du vent près de la Méditerranée. Un peu plus d'éclaircies près de l'Atlantique, sauf à proximité des Pyrénées. Les températures repartiront lentement à la hausse, un peu plus de 20 degrés demain dans le nord, 25 dans le sud, mais le meilleur est à venir pour le week-end notamment.
Et ben voilà, vous voyez quand vous voulez.
Ouais, mais je pense.
Merci Louis, allez dans un instant les infos de 13h avec Agnès Bonfillon.